Bonjour, je vous invite cette semaine à suivre Jean-Sébastien Bach à Venise. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Jean-Sébastien Bach est allé à Venise.
C'est un voyage imaginaire que celui du musicien allemand qui, on le sait, n'a jamais été en Italie, contrairement à la plupart de ses contemporains. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller visiter Venise avec un guide et avec les 6 suites de violoncelle de Jean-Sébastien Bach comme point central. Ce guide, c'est Claudio Ronco, qui est violoncelliste, qui est compositeur aussi.
Vénitien d'adoption depuis un quart de siècle.
Voilà, il vit à Turin, mais il vit à Venise et il connaît très bien la ville. Il fait des analogies souvent entre Venise et la musique, par exemple. C'est un érudit à la fois et aussi quelqu'un de très chaleureux et immédiat qui prend son marché ou joue du violoncelle à n'importe quel moment.
Une série profondément originale, j'allais dire atypique. Il faut dire que Claudio Ronco l'est autant original qu'atypique.
Voilà, parce qu'il n'est pas dans le monde très officiel de la musique. Il a enregistré plusieurs disques.
Oui.
Il fait partie de l'ensemble Clemencic. Donc on aura l'occasion d'entendre aussi ses basses continues dans cette musique enregistrée sous la férule de René Clemencic. Mais il est aussi un poète de la musique et des arts en général.
Oui.
Il tisse des liens et il a une vision très générale de la place de l'artiste dans la société, très idéale aussi.
Promenade musicale et poétique, le cadre est unique. Pour vous qui écoutez Musique en mémoire cette semaine, le décor est planté, quoique multiple, au gré des canaux. On vous suit, David Mestri ?
On va suivre aussi une des suites de Bach pour chaque jour de la semaine, avec une sixième qui sera en bonus le vendredi.
Oui.
Et on va suivre aussi aujourd'hui les canaux, qui sont cette véritable circulation sanguine de la ville de Venise, puisque j'ai eu la chance d'être invité avec Claudio Ronco sur une gondole. On parlera donc de bateau. Il n'y a pas que les gondoles à Venise. Le gondolier qui nous a mené, qui est aussi un musicien, qui s'appelle Kuba, est un féru de lutherie de bateau, si l'on veut. C'est un peu une analogie avec les violoncelles. On parlera de bois, donc, sur ce canal, et au gré de la musique de Claudio Ronco, et notamment, pour commencer, de ce menuet de la première suite.
Première promenade musicale et poétique, avec un sous-titre, David Mestri, un violoncelle solitaire sur la lagune.
Forme de danse nous permet naturellement de bouger notre corps d'une façon bien ordonnée, non, dans un cosmos, dans un ordre qui est beauté, qui à la base nous permet de ne pas marcher sur le pied de la dame quand on danse. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que c'est bien évident que le moment final de cette expérience de la musique à travers le corps, c'est que tout mouvement du corps tourne en devenant mouvement de l'esprit. Se transforme dans ça. Et donc, en même temps qu'on est en train de faire bouger un corps qui n'est pas physique, c'est tout à fait mental, on est en train d'écouter, tout à fait assis sur notre chaise, au concert de quelqu'un qui nous joue une suite de Bach, une séquence de danse. La danse doit être la danse de notre esprit qui place toute notre imagination dans le parcours des pas dessinés par le créateur de cette danse. Elle laisse notre corps spirituel se libérer de son poids à travers la légèreté de cette danse d'ordre et beauté. Thank you.
Guarda, metti il piede qua.
Ah, ma basta che tu mi dai una spalla, ti appoggiare.
On embarque sur la gondole, je crois que c'est une première pour moi.
Solo due zampe.
Ici c'est magnifique. Jouer sur ta barque, c'est jouer avec ton coup d'archer. Cuba, tu te souviens de Peggy?
Je la connais depuis...
Combien d'années?
13.
Elle a, passé 20 ans de sa vie ici à Venise.
Je sais, elle a vécu longtemps.
Elle est une femme formidable. Elle était née en Normandie. Était la fille d'une famille qui avait un moulin à l'eau.
Oui.
Ben, pendant des générations et générations.
Ça la rapproche de Bach.
Je l'ai découvert aujourd'hui. L'aventure commence en Suisse.
Yahoy!
Yahoy, c'est pas un mot vénitien, c'est le moyen pour faire le passage de ce canal-là, tu vois, sans tomber sur notre barque. Personne n'a répondu, donc il n'y a personne. Bref, pour quelques raisons, elle va à apprendre le...
Faire du drainage lymphatique.
L'infothérapeute. Et bon, ça, c'est un début. Enfin, elle n'a pas encore compris où aller, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et des amis vénitiens lui disent, écoute, il n'y a pas de lymphothérapeute à Venise. Peut-être que tu peux travailler comme ça, chez nous. Bref, Peggy a eu toute sa vie le rêve de Venise. Et donc, elle prend sa valise, arrive à Venise, et dans quelques mois, elle est capable de vivre avec son travail, nouveau travail de lymphothérapeute. Le début pour elle, c'est une maison à la Giudecca. Donc la Giudecca, tu sais, c'est une île avec un grand canal entre l'île et Venise. Et les vaporetti parfois font la grève.
Oui.
Un jour la grève, un autre jour la grève.
Oui.
Peggy prend la décision de s'acheter un bateau. Le premier bateau, c'est comme ça, c'est un sandalo. Mais tout, c'est plus petit que ça. Et elle commence à traverser toute seule le canal de la Giudecca pour aller à son travail, même s'il n'y a pas la grève, parce que c'est beau. Et un jour, au retour d'un voyage en France, elle arrive, c'est l'hiver, c'est très tard la soirée, sur le canal Grande, il y a un bateau magnifique pour elle. C'est quelque chose que lui donne un sentiment d'inquiétude, mais aussi d'énergie extraordinaire. Donc elle demande le matelot du vaporetto, qu'est-ce que c'est ce bateau-là? J'ai jamais vu ça. Et lui, il répond, ah, c'est assez rare aujourd'hui, mais c'est traditionnel. Il s'appelle San Pierotta. Peggy a un seul désir, posséder un San Pierotta. Comme ça, fait une annonce pour vendre son sandalo et pour acheter un San Pierotta. À un moment, arrive une réponse. Elle a vendu le sandalo, arrive la San Pierotta pour elle, et c'était exactement celle-là qu'elle avait vue sur le canal Grande.
San Pierotta, c'est plus grand qu'une gondole, c'est large. C'est...
On a justement passé une, n'est-ce pas?
Oui, c'est une San Pierotta.
Alors, vous pouvez nous la décrire, Cuba, c'est comment? C'est plus large, plus grand?
Alors, une San Pierotta, moyennement, c'est une forme très utile pour la pêche.
Voilà, plus bombée.
Bombée. Entre 6 mètres et 7 mètres, 7 mètres et demi. Moi, la mienne, elle est petite, elle a 5 mètres 60. C'est un modèle de 16 ans de bateau petit. La moyenne, c'est 7 mètres. Et beaucoup de gens ils la considèrent une forme très utile pour beaucoup de choses. On peut faire ça, la pêche, pour aller à voile, pour aller se balader. Elle n'est pas trop grande, pas trop petite. Elle est une forme exceptionnelle. Pour moi aussi, c'est compliqué.
Et du point de vue esthétique, c'est un des plus élégants bateaux vénitiens. Évidemment, c'est aussi difficile à fabriquer, parce qu'on a abandonné la San Pierotta, je crois d'avoir compris, autour des années 60-70. Donc, avait dans Schiavon, le dernier maître qui savait la faire. Donc, Schiavon était mort depuis quelques années, quand Peggy avait acheté la Saint-Pierrotta. Et là, elle avait tombé en amour tellement avec ce bateau qu'elle a cherché de le faire copier par des autres maestri d'Asia. Et encore une fois, il faut se rendre compte de la puissance de ces mots. Maestri d'Asia. Ça, c'est un art et pas un métier qui passe à travers mille générations. Venise commence avec l'art de maestri d'Asia qui coupe le bois pour faire les pilotis ou pour faire les navires. Et plus tard, quelqu'un qui coupe le bois pour faire des instruments de musique ne travaille pas d'une façon tellement différente de celle d'un maestro d'Asia. En principe, il y a le même début, la matière magnifique du bois, et la sensibilité pour la résonance, pour la flexibilité. Flexibilité et résonance vont ensemble dans l'instrument de musique, mais aussi dans la barque. C'est-à-dire la réponse à ton geste. Maintenant, c'est la flexibilité du rame, c'est la légèreté de tout l'ensemble de ce bateau. Alors, tu bouges tes bras, ni plus ni moins, quand je bouge mon bras avec l'archer sur le corps de mon violoncelle.
Une autre forme de faire musique.
Oui. Et donc une gondole ou un Saint-Pierrotta, c'est un instrument de précision, c'est un bateau très précis.
Précis dans le sens qu'on passe aussi à côté, à 1 cm de distance de notre bateau. Donc on a des distances qui sont différentes que conduire un bateau à moteur. Ou conduire dans la mer d'un bateau normal, ça n'a rien à voir. Ici, on passe, on risque presque.
Les canaux sont étroits, c'est une question de finesse, oui,
de finesse,
très peu
parce
de place.
Que les canaux sont étroits, donc les bateaux sont très fins, ils ne sont pas larges. Normalement, au début, tous les bateaux vénitiens étaient longs et étroits. Pourquoi? Parce que la plupart des canaux sont étroits, donc il fallait avoir des bateaux plutôt longs que larges. Sinon, on n'y passait pas. Et puis, on passait à distance vraiment de quelques millimètres.
Et quand vous faites des virages pour passer sous un pont qui est juste à la hauteur aussi, c'est impressionnant quand on ne connaît pas.
Oui. Ça compte, ben, l'hauteur, c'est les marées aussi, que ça c'est un autre problème.
Pour retourner à Peggy, notre amie, quand elle a trouvé à un certain moment un architecte qui l'a aidé à préparer des dessins pour la construction d'une Saint-Pierrotta, le deuxième pas c'était de visiter le monsieur dont tu vas...
Piero Menetto. Je faisais 1h30 de Venise pour aller au chantier quand je n'avais pas le travail. Et j'ai restauré les bateaux que j'avais là. Donc, ce n'est pas lui qui me les restaurait. Lui, ce que je pouvais, je faisais moi.
Oui.
Et puis lui, il faisait les vrais travaux. Moi, je faisais ce que je pouvais, enlever les bois qui étaient un peu mal mis. Et lui, il faisait les choses à nouveau. Donc il a considéré moi comme une personne qui aime les bateaux, parce que je n'amenais pas les bateaux, je m'en allais du chantier et j'ai retourné, je prenais les bateaux réparés. J'ai resté et j'ai retourné chaque jour pendant 10-15 jours. Je faisais 1h30 aller, retourné chaque jour pendant 10-15 jours par exemple pour être au chantier. C'était fou, hein. C'était une chose que moi je l'ai dans le cœur. J'imagine pas qu'il est parti janvier, qu'il n'est plus là. Parce que c'était les derniers, attention. C'était les derniers et maîtres descendants du Schiavon. C'était l'élève de Schiavon. Il n'y en a plus.
Il fallait avoir une femme qui venait de la Normandie pour reprendre cette tradition de la Saint-Pierrotta. Ça, c'est. Je trouve extraordinaire. Bah, il faut que tu saches une chose. Cuba. Il est demi-polonais.
Notre gondolier, oui.
Notre gondolier.
Non, si je dis-moi. Peux... En fait, je ne suis pas demi.
Plus que ça ou moins que ça?
Mon père et ma mère, elle est polonaise.
Tous les deux, donc. Tous les deux, c'est
100%.
Pas demi. Eh oui, mon père et ma mère sont polonais tous les deux.
Alors, comment est-ce qu'on devient gondolier quand
c'est
on...
C'est la globalisation, le mélangement. Moi, quand j'y pense, ça me fait aussi sourire, non? Parce que... Bon, ça fait bizarre aussi, non? Il pense, tu t'éloignes et tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Hein? Je suis polonais. Je fais un métier qui est vénitien. Ce n'est pas normal, je dis. Mais après, je dis, ben, je suis là depuis 35 ans. C'est normal, peut-être.
Non, c'est extraordinaire. Ça dit, c'est un petit miracle.
Non, je dis, oui, moi, je dis que c'est un petit miracle. Je fais partie un peu de ça. Même si je ne suis pas un élan, bon, j'apprécie énormément la tradition. Ça veut dire que pour moi, un bateau en plastique, pour moi, n'existe pas.
Voilà.
Ils sont là, mais bon, ils sont là.
Bref, Peggy, avec Pietro, commence à faire la première copie de la Saint-Pierrotta qu'elle avait achetée.
Voilà, donc cette Normande
qui a réinitié. La Saint-Pierrotta qu'elle avait achetée, c'était une Saint-Pierrotta qui avait 40 ans, hein, à l'époque. La première Saint-Pierrotta copie commence à être amenée dans les canaux vénitiens et elle parle à les gens qui ont acheté une barque en plastique. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez compte que le plus grand danger pour Venise, ce sont ces petits moteurs. Ne croyez pas que ce sont les grandes barques, les grands bateaux. C'est vous avec la barque en train de voir une. Elle est même assez jolie, si tu veux. Tu vois, la ligne, c'est celle des barques traditionnelles. Mais c'est de plastique.
Cette barque est passée justement, comme tu dis, ça prend la forme un peu de la Saint-Pierrotta, puis il est transformé derrière les carrés pour le moteur. Ça prend de la tradition, hein, en théorie.
Sauf que c'est un simulacre, notre foi. On a une barque qui ressemble, qui n'est pas, mais derrière l'achat de cette barque, c'est la mort des artisans qui ont appris, d'après plusieurs générations, à travailler, siècles, à travailler le bois, à le choisir, pas seulement le travailler. À le rendre vivant, une barque qui a une vie, qui peut aller 40 ans, 50 ans, 60. Même plus, 60. C'est question d'avoir l'attention.
La soigner bien.
Oui. Mais finalement, le vrai désastre, c'est celui qui fabriquait la gondole, la barque en bois, qui doit changer de métier. Il doit abandonner. Et ça, c'est une lacération terrible.
C'est une perte d'une tradition qui s'éteint.
Mais même. J'ai connu des gens qui ont eu cette expérience et ils n'ont pas envie de parler. Donc tu as encore vivant l'homme qui a travaillé pour moitié de sa vie, le bois et tout ça. Donc tu peux avoir des informations, tu peux avoir la charme d'écouter ses mémoires. Et ça n'existe pas parce que c'est trop la douleur d'après cette mémoire. Donc il ne parle pas. Tu vois, Maestro Dasha, c'est un grand artiste, mais c'est en même temps un homme très simple. Ce n'est pas un philosophe qui écrit des livres, c'est un philosophe qui vit la philosophie.
C'est un luthier de bateau.
C'est un luthier de bateau. C'est un homme qui fait des instruments de musique et l'eau est la musique. Et la partition musicale qu'il faut suivre. C'est ça, plus ou moins, l'idée qui Peggy, quand se promenait avec sa Saint-Pierrotta dans les canaux vénitiens, donnait à les gens qu'il rencontrait sur des barques en plastique ou sur n'importe où. Et dans le 2002, elle avait fondé une association culturelle, les Amis de la Saint-Pierrotta. Et tout d'un coup, il y avait la demande. Les gens arrivaient chez les maestri d'Asia et disaient « Ah, j'ai envie de m'acheter un Saint-Pierrotta ». Un après l'autre, on est arrivé à voir une autre fois. Là, celle-là est presque…
Celle-là, c'est le Pierrot.
Elle est belle, hein.
Il a fait Pierrot.
Tu vois la qualité du bois.
C'est incroyable. Quand on connaît la Saint-Pierrotta, hein, parce que la Saint-Pierrotta, c'est un modèle.
Oui.
Après, quand tu commences, moi j'en ai une. J'ai découvert comment qu'elle était faite par le maître Piero. J'étais assis sur ma Saint-Pierrotta et j'ai gratté les bois pour enlever la peinture. Ouais. J'ai enlevé les vieux peintures pour la repeindre. Un monsieur avec la pipe, il est passé, il m'a regardé, il s'est arrêté ici. Celle-là, elle est faite par Piero Menetto. Moi, je les regarde et je dis, mais qui c'est? Alors là, ah oui, il m'a expliqué. Alors, Piero Menetto, c'est un maître qui travaille à San Piero. Ah, ça m'intéresse bien, bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un bateau sans savoir qui l'a fait. Je l'ai découvert par un monsieur que je salue tout le temps que je les rencontre dans la rue. Et j'ai découvert comme ça, que ce bateau était fait par lui.